4000 morts pour se débarrasser d'un narcotrafiquant. C'est un peu comme si les États-Unis envahissaient l'Afghanistan pour se débarrasser des proches de Karzaï. Alors, ma comparaison n'est pas tout à fait juste, parce qu'en Afghanistan, ils y sont déjà, mais c'est pas pour se débarrasser des corrompus. Hein.
Oui, puisqu'on voyait dans l'article précédent que l'Afghanistan produit 91% de l'héroïne mondiale.
Tout à fait, et puis 89, les États-Unis poursuivaient leur agression contre les sandinistes au Nicaragua, qui n'était pas un régime communiste. Hein. Je rappelle qu'au Nicaragua, à l'époque des sandinistes, il y avait moins d'entreprises publiques ou d'entreprises d'État qu'en France ou en Italie. On était loin du système totalitaire. Les États-Unis appuyaient également le Salvador, où les gens se battaient contre un régime qui avait été mis en place en 1932, avec des présidents d'opérette dirigés par les militaires. Il y avait encore la guerre au Guatemala, appuyée par les États-Unis. Résurgence, conséquence du coup d'État de 1954.
Par les États-Unis et par un certain nombre d'intellectuels français qui nous parlent des droits de l'homme en ce moment, et qui signaient des pétitions en faveur des contrats du Nicaragua.
Quels des noms ?
L'un de ceux que vous avez invité sur votre antenne, qui est un néo-philosophe, je crois.
Ah, je vois vaguement, oui.
Néo-philosophe. Alors bon, vous allez me dire, tout ça, c'est du passé, on est en 2009, on ne va pas pinailler sur
on ne va pas avoir tout le temps l'œil sur le rétroviseur aussi.
Est-ce qu'elle est terminée, la guerre froide ? Qu'est-ce qui se passe au Honduras en ce moment ? Au Honduras, on renverse le président Manuel Zelaya le 28 juin dernier. L'affaire traîne, la communauté internationale s'émeut, lentement, mais s'émeut. L'Amérique latine s'émeut réellement. Et puis finalement, Thomas Shannon, le sous-secrétaire d'État des États-Unis, descend à Tegucigalpa le 30 octobre. On a enfin un accord, au terme duquel on va ramener le président Manuel Zelaya au pouvoir. Et puis ensuite, on pourra organiser les élections du 29 novembre prochain dans le cadre d'un gouvernement d'unité nationale. Et puis à peine Thomas Shannon a-t-il tourné les talons que le dictateur, le putschiste, Roberto Micheletti, rompt l'accord, nomme son propre gouvernement d'unité nationale, du nom national, et puis prétend organiser les prochaines élections du 29 novembre prochain. Les États-Unis disent, à partir de maintenant, c'est une affaire entre Honduriens, de sorte que le coup d'État a réussi et que vraisemblablement, dans quelques temps, nous aurons le Karzaï hondurien. Et puis, nous sommes aussi toujours dans un contexte de guerre froide, puisque les États-Unis installent 7 bases militaires en Colombie, hein, dont l'une à 20 minutes de la frontière du Venezuela, pays dans lequel les incursions de paramilitaires colombiens sont en train de se multiplier. Donc, il n'y a pas vraiment matière à se féliciter du retour de la liberté et de la démocratie. D'autant que, et là nous revenons au monde diplomatique, je m'étais un petit peu écarté, puisqu'on parle de murs. Parlons de murs. Il y a un mur au Mexique. Il y a un mur entre le Mexique et les États-Unis. Un mur qui a été érigé, un mur métallique, un mur odieux, qui a été érigé pour empêcher les Mexicains pauvres, qui ont été jetés dans la pauvreté par le capitalisme triomphant, peut-être depuis la chute du mur de Berlin. Je vous précise d'ailleurs que le mur de Berlin n'a jamais été sympathique. Hein, entendons-nous bien. Mais il faut le dire, il faut préciser les choses. Mais ce mur est d'une certaine manière le symbole de ce capitalisme triomphant, et l'enquête, le reportage qui a été mené ce mois-ci pour Le Monde Diplomatique par Anne Vignal, journaliste au Mexique, c'est sur les maquiladoras, ces usines de sous-traitance qui sont précisément installées juste avant le mur, qui était au départ conçu d'ailleurs pour arrêter la vague de pauvreté venant du Mexique, puisque c'était des usines de sous-traitance délocalisées des États-Unis qui venaient bloquer le flot d'immigrants en leur offrant du travail dans des conditions certes précaires, certes mauvaises, certes socialement désastreuses, mais en tout cas qui les arrêtaient. Il se trouve que compte tenu de la crise économique globale, et en particulier de la crise économique des États-Unis, ces maquiladoras sont en difficulté, sont en train de fermer. Alors il n'y avait déjà pas de syndicats, mais imaginez les licenciements dans ces conditions-là. Et la situation dans ces maquiladoras est absolument tragique pour la population, qui peut difficilement revenir en arrière, mais qui ne peut pas avancer vers les États-Unis puisqu'il y a le mur, de sorte que la commémoration de la chute d'un mur mériterait de plus amples réflexions.
Ceci est la véritable histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pour que les générations se souviennent de l'apocalypse.
On continue de parcourir le sommaire de ce Monde Diplomatique du mois de novembre avec un journaliste que je vais faire semblant de ne pas connaître, et vous aussi, chers auditeurs. Il s'agit de François Ruffin, qui revenait, cher François Ruffin, d'un reportage en Guadeloupe où vous êtes allé voir ce qui se cachait derrière le LKP et derrière la figure qui nous a été présentée comme le grand leader Elie de Mota. Et vous voyez, vous, une flamèche obstinée, c'est-à-dire un ferment, un terreau de protestation et de revendication syndicale.